Écoutez le monde changer.
Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Bon, très peu d'humoristes peuvent se targuer d'avoir joué dans Le songe d'une nuitée de William Shakespeare. Et bien, Bérengère Krief, Frimousse Angélique et Gouaille de Sniper, si. Après 2 ans d'absence, la voilà de nouveau sur scène avec un spectacle d'humour baptisé Amour. Parce que, après tout, même la plus redoutable humoriste est un petit cœur à prendre. Donc, du jeudi au dimanche, Bérengère Krief enflamme la Gaîté Montparnasse à Paris, avant bien sûr de partir en tournée. Et elle est cet après-midi mon invitée. Voilà, bienvenue Bérengère.
Bonjour, merci de m'inviter.
Bérengère avec un E, n'est-ce pas ?
Avec un E.
C'est important. Europe 1. Alors, Bérengère Krief, il y a une chose qui me fascine chez les humoristes filles, c'est leur capacité sur scène à utiliser le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est zapper tout ce qu'on a digéré d'une éducation, envoyer valdinguer la pudeur, la retenue, une certaine image polissée et flatteuse qu'on nous apprend à montrer de nous. Bref, en fait, pulvériser tous les codes du politiquement correct, social ou sexuel, pour faire rire. Bérengère Krief, dès que vous êtes montée sur scène, vous y êtes parvenue tout de suite à se lâcher prise ?
La première fois que je suis montée sur scène, j'avais 9 ans. Et je me souviens que c'était... Voilà, je me posais plus de questions en fait. Je crois que j'étais...
Là où vous deviez être.
Ouais, il y avait une certaine liberté qui n'est pas réfléchie. Je me disais pas, chouette, c'était normal. Je sais pas comment expliquer. Mais c'est vrai que j'ai l'impression, en tout cas quand je joue, qu'il y a un twist qui se fait. Ça m'est arrivé par exemple d'être à Toulouse devant 800 personnes, de faire mon sketch et d'un coup de réfléchir, de me dire « Mais je connais personne dans cette salle. Mais ils sont 800 et je suis toute seule.
Mais qu'est-ce
et si je commence à faire ça ?» D'un coup, j'ai les jambes qui tremblent et puis je peux plus parler. Donc je crois que la magie du cerveau fait qu'il y a comme un truc qui se ferme et on réfléchit plus. Parce que sinon, on ne fait pas. Hein.
Mais certains imaginent que lorsqu'on choisit de s'habiller en rose, ce qui vous arrive souvent, et qu'on a par exemple des barrettes dans ses cheveux blonds, eh bien on n'est pas armé ou peut-être pas construite pour de l'humour cash. Les a priori ont la vie dure, c'est ça ?
Ben c'est intéressant l'humour sociétalement parce que moi je crois que quand j'ai commencé à faire mon spectacle, d'ailleurs je travaillais avec un auteur homme avec qui on a puncher le spectacle, c'est-à-dire que il faut que ce soit drôle, il faut mettre des punchlines. Donc moi je peux être marrante, mais c'est pas quelque chose qui me vient facilement. Donc j'avais cet auteur Grégoire qui était là et qui était super et qui écrivait des blagues qui me faisaient rire. Donc on a construit ensemble le spectacle et je pense avoir utilisé plus mon masculin pour faire de l'humour et la femme était jusqu'à présent obligée d'être dans son masculin.
C'est-à-dire qu'il a introduit par son écriture à lui masculin, sa vision masculine voilà. Justement de la
oui,
société.
Oui, mais je dis toujours, c'est un peu comme les petits garçons à l'école. Comme on vient d'une éducation, les petits garçons n'ont pas le droit de pleurer et les filles ont le droit d'exprimer leurs sentiments. Du coup, les garçons, ils utilisent l'humour, donc ils s'entraînent depuis toujours. En fait, pour désamorcer, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des blagues. Alors que, en tant que femme, moi je suis drôle, mais je fais pas des blagues tout le temps, en fait. Et d'ailleurs, pour ce spectacle, ça a été intéressant parce que j'ai mis du féminin.
Vous l'avez écrit seule, ce spectacle ?
Alors, Grégoire est arrivé, est revenu dans le processus, mais oui, je l'ai écrit seule au départ.
Alors, Blanche Gardin pratique un humour introspectif d'une noirceur radicale. Valérie Le Mercier a toujours recherché le décalage entre l'humour et puis son physique de grande bourgeoise. Caroline Vigneault, ex-avocate, a un humour infusé de féminisme. Florence Foresti, par exemple, passe au scanner notre société avec agacement, ce qui nous réjouit. Vous, vous avez le sentiment, Bérengère Krief, de vous situer où parmi toutes ces propositions ?
C'était dur parce que... Je sais pas trop, moi j'avais un peu j'ai senti tout au long de mon premier spectacle, à un moment j'ai senti que quand je parlais, ça pouvait faire du bien au cœur brisé, que ça pouvait faire du bien à des gens qui se sentent tout seuls dans une émotion triste, dans une vulnérabilité. Et donc ce spectacle, je l'ai écrit, le thème principal n'est pas la rupture, mais évidemment quand on parle d'amour, on va parler de rupture et je parle de la mienne. Et en fait, j'ai eu vraiment envie de dire aux gens qu'est-ce qu'on peut faire après une grosse rupture, après avoir pleuré, être triste, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans notre société, on se sépare, c'est triste, on ne sait pas quoi faire de nos ruptures, parce que souvent, on les répète, on est à un âge où on est... Moi, je me suis fait larguer, j'avais 30 ans, donc... Voilà, et puis c'était ma première rupture, donc d'un coup je me dis mais pourquoi j'en suis à nouveau là ? Je pense que c'est ça moi mon créneau, c'est peut-être l'espoir dans l'amour, l'espoir dans la rupture. Donc je sais pas, il y a un petit côté beaucoup... un peu spirituel.
Mais voilà, puis il y a du lyrisme là-dedans. Vous savez, pour la promo, je vous ai entendu prononcer cette phrase que je trouve réjouissante. Vous dites, bon, tant pis, ça fait tarte de parler d'amour. Mais sincèrement, c'est le sujet qui me réveille le plus dans les discussions.
Ben oui, en fait, je me suis rendu compte que bon, j'étais pas trop collée à l'actu. Voilà, le sujet dont j'arrive bien à parler, et souvent, je suis un peu la coach de mes copines aussi. Donc, j'ai mis tout ça dans le spectacle.
Alors, on rit, et beaucoup, mais pas que. Il y a aussi une poésie inattendue dans ce seul en scène. Vous êtes mise au cerceau aérien, ce qui n'est pas la discipline la plus simple. Non. Et il paraît que depuis un an, vous bossez comme si vous alliez intégrer le Cirque du Soleil. Oui. Pourquoi le cerceau aérien ?
Bah, ça a été ce que j'appelle une intuition, c'est-à-dire que...
Tout le monde écarquille les yeux en régie.
Disons, hein. Pourquoi ?
Cerceau aérien,
mais moi,
là...
à chaque soir que je me mets au cerceau, je me dis, mais pourquoi ? En fait, je suis partie en voyage en Australie, après ma rupture. Je suis partie toute seule, et j'ai fait comme une sorte de reprogrammation. C'est-à-dire que, bon, déjà, il y a le voyage toute seule, et on ne peut plus accuser sa mère, son mec, de quoi que ce soit. Si on s'ennuie, c'est un peu de notre faute, hein. C'est à moi de gérer le programme. Et donc, ça m'a poussée à faire d'autres choses. Et j'ai vu un spectacle voilà, qui m'a bouleversée, et c'était un truc un peu de cirque moderne. Et c'est ça aussi que j'ai aimé, c'est l'émotion du cirque. Alors, quand je disais tout à l'heure, je crois que j'ai pris toutes les émotions que j'aimais vivre en tant que spectateur, puis je les ai mises dans un spectacle.
Et parce là, l'émotion du cirque... C'est beau, c'est gracieux, mais c'est dangereux et difficile.
Alors ça, je l'ai su après, quand je me suis mise. Parce qu'au début, je me suis dit, ah là là, cette émotion quand je vois l'acrobate qui va peut-être tomber, que je fais... Voilà, je me suis dit, ça, je veux le mettre dans mon spectacle. Après, j'ai commencé et là, j'ai fait, ah oui, soulever son propre poids dans un cerceau en métal, eh ben, ça fait mal, ça c'est sûr. Et ce cerceau, il n'est pas là pour rien. Il n'est pas là pour dire aux gens, regardez, je sais faire du cerceau. Il est là pour parler du dépassement de soi. Et de la difficulté qu'on a parfois à atteindre ce que j'appelle la zone magique. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand je joue et que je fais du cerceau, je suis la plus heureuse parce que je vois de là où je viens et je me dis, je l'ai fait. Et l'accomplissement, je trouve que c'est une chose qui est rare, en fait. Et voilà.
Et en fait, à la Gaîté Montparnasse, en ce moment, vous nous proposez plus que du stand-up. En fait, oui. Un peu comme Alex Lutz, et ben vous bougez les cadres et vous explorez.
Ouais. Oui, ouais,
c'est Bérangère l'exploratrice.
C'est ouais, mais c'est un peu ça aussi l'exploratrice. J'ai l'impression de revenir d'un voyage. Non, mais pas que d'un voyage en Australie. Hein, c'est d'un voyage humain, hein, de me dire voilà, écoutez, je me suis fait larguer, j'ai vécu ça, j'ai failli me marier, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai voyagé, je fais du cerceau. Bon, je vous donne juste mon avis. C'est que mon avis, mais en tout cas, c'est le résultat d'une exploration effectivement. C'est très juste. Je me sens un peu comme ça.
Eh ben, écoutez, c'est parfait, j'ai 1000 questions à vous poser. Donc on s'interrompt vraiment un bref instant et on retrouve tout de suite Bérangère Krief avec laquelle on se promène cet après-midi.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Elle est sortie de l'ombre grâce à la série Bref sur Canal+. Bérangère Krief est l'invitée d'Isabelle Morizet cet après-midi. Vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Elle est irrésistible et son nouveau spectacle, qui est plus que du stand-up, baptisé Amour d'ailleurs le spectacle, enflamme la Gaîté Montparnasse à Paris, toutes les semaines du jeudi au dimanche. Ben c'est Bérangère Krief que je reçois. Alors chère Bérangère, en interview vous êtes assez discrète au sujet de votre famille. Pourtant cette famille, elle a une vraie histoire et elle a vraiment du panache. Au début des années 50, vous m'arrêtez hein, si je dis des bêtises, au début des années 50, en arrivant d'Algérie, votre grand-père Émile a ouvert un restaurant à Lyon et parallèlement, il s'est spécialisé dans la fabrication de pâtes feuilletées fraîches qu'il livrait à ses clients lyonnais. Et puis un jour, en 1955, vous étiez très très loin d'être né, voilà. Et ben votre grand-père, il a une idée de génie. Et si cette pâte feuilletée, il la congelait pour inventer les premiers friands surgelés, autrement dit, les tout premiers gâteaux d'apéritif en pâte feuilletée à décongeler chez soi. C'était follement novateur, ça marchait tout de suite, l'entreprise a grandi et aujourd'hui, en 2020, c'est votre père et c'est votre frère qui la dirige, c'est ça ?
C'est ça, c'est très juste. Je rajouterais juste que derrière mon grand-père, il y a une femme, il y a sa femme Ginette avec qui ils ont vraiment... C'est une entreprise montée par un couple. Hein. Mon grand-père...
C'est elle qui cuisinait, on va dire, au départ ?
Non, je pense que lui, il a les idées, il est fantasque et elle cadre. Elle c'est la logistique, le travail bien fait, la rigueur et donc c'était une super équipe. Donc ils ont créé cette entreprise qui est toujours en activité, effectivement, avec mon frère, mon père père et deux de mes cousins, parce que mon père était avec ses deux sœurs aussi au départ. Et mais c'est vrai que ça n'a rien à voir, le feuilleté surgelé, avec mon activité d'aujourd'hui. Mais je dois dire que d'avoir eu l'histoire de mes grands-parents qui entreprennent quelque chose
qui
à
osent.
Partir de zéro. Voilà. C'est-à-dire, ils sont arrivés d'Algérie, ils avaient très peu d'argent, ils ont investi, ils ont parié, et ils ont pris des risques. Et effectivement, moi, j'ai l'impression que ça m'a donné le goût de rien n'est impossible, quoi.
C'est-à-dire
que moi, je suis partie de Lyon pour faire du théâtre. Je me suis jamais dit, ah là là, c'est difficile, toutes les portes sont fermées. Sans être utopiste, j'ai fait mon chemin et c'est vraiment grâce à eux, je pense.
Alors, on peut dire que la société qui est bien connue à Lyon s'appelle Vite à Cuire. Effectivement, une entreprise qui, depuis 65 ans, se développe en restant au sein d'une même famille, bah, c'est pas si fréquent.
Non.
En plus, ça veut dire qu'il y a une espèce de solidarité, de complicité. Enfin, c'est une aventure familiale, quoi.
C'est vraiment une aventure familiale basée sur un couple qui a vraiment eu à cœur de transmettre ça. Ils ont eu envie de nous léguer cette entreprise, de donner du travail à la famille. Et puis, la valeur du... Vraiment, j'ai eu la valeur du travail assez tôt. Mon père, il m'a toujours... on commence, on finit, on fait des choses bien. Donc ça,
c'est une éducation structurée, structurante.
Ouais, voilà. Ouais. Beaucoup de confiance, en tout cas, dans les choses. Ils avaient beaucoup de confiance dans la vie, en fait.
Vous avez combien de frères et sœurs, Bérangère Krief?
J'ai un petit frère.
Petit frère,
Anthony.
Bon, est-ce que vous êtes la seule, parent, tante et cousin, rapprochés ou éloignés compris, à avoir manifesté un tempérament d'artiste?
Oui. Et en même temps, c'était pas une surprise parce que je faisais de la danse, je faisais du théâtre assez tôt. Et donc, quand je me suis rapprochée du bac, on se dit bon bah qu'est-ce qu'on fait après ? Et c'était assez clair pour tout le monde que j'allais faire ça. Enfin, il y avait pas vraiment de suspense. Et mes parents étaient assez cool, donc j'ai fait une école de théâtre après la fac. Mais j'ai mis assez de temps. J'allais vérifier quand même que c'était vraiment ça que je voulais faire.
Alors justement, avant de vous lancer, vous êtes passée par effectivement l'apprentissage. C'est à cette époque-là que vous êtes inscrite à l'Acting Studio de Lyon.
Oui.
Alors l'Acting Studio, il faut préciser que c'est la maman d'Alexandre Astier, n'est-ce pas, le créateur de Kaamelott sur M6, qui a fondé cette école. Vous y avez reçu quel genre d'enseignement?
C'était super. En fait, c'était une école qui existe toujours. Hein. Nous, c'était sur 6 mois. C'était une formation professionnelle. Donc, on y allait du lundi au vendredi, 8 heures par jour. On avait une petite rémunération avec la mission locale. Enfin, il y avait quelque chose un peu de professionnel, quoi. Et ça a été une super expérience parce que on était dans... Je ne sais pas comment exprimer ça. C'était l'école du vrai, en fait. C'est-à-dire... si on se mettait une baffe, il fallait se mettre une baffe. J'ai souvenir, moi j'avais un rôle où je me prenais une baffe, je me rappelle du cours. Il y avait un truc dans l'action, on faisait pas que jouer, on aurait qu'à dire que je suis un personnage. Il y avait un vrai
investissement
corporel de chaque truc. Et donc on faisait de la danse, on faisait de l'interprétation, de l'improvisation. On avait un cours d'art martial, donc c'était assez...
Ça a été votre conservatoire à vous?
Ouais, j'ai adoré.
Alors, en même temps que vous étiez élève, vous jouiez sur scène, au théâtre. Vous avez ainsi été Hermia dans Le Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare. Il y a vraiment une galaxie entre jouer Shakespeare et faire, par exemple, le Marrakech du rire.
Oui.
Vous avez aimé incarner les jeunes premières du théâtre classique?
Je crois qu'il faut que je raconte une anecdote parce que j'ai l'impression qu'en plus, elle est en train de se régler en ce moment. En fait,
dites-nous.
Quand j'ai commencé le théâtre, donc dans mon petit village à Lyon, à côté de Lyon, j'avais 9 ans et j'ai suivi ce cours de théâtre jusqu'à mon adolescence avec à peu près les mêmes filles, le même groupe. Et on faisait chaque fois un spectacle de fin d'année plutôt drôle, une comédie, on est des enfants, etc. Mais arrivé à 15 ans, les filles de mon groupe ont dit « Non, mais cette année, on fait un drame ». Alors je dis « Ah bon ?» Mais moi, j'avais aucun avis sur la question. Je me dis « Bah oui, très, très bonne suiveuse. Ah oui, bonne idée. » Donc, on choisit de faire La Maison de Bernarda Alba de Federico Garcia Lorca, qui est
truc
sombre.
Sérieux.
Cette femme, jeune femme enfermée dans une maison par leur mère et un jeune homme qui les fait fantasmer à l'extérieur. Donc, on est sur ça. Donc, je me dis « On a 15 ans, qu'est-ce qu'on fout avec cette pièce ?» Mais bon, on est mercredi après-midi. On doit lire chacun qui fait quel rôle. Et moi, j'ai souvenir de lire... un rôle, j'avais envie de le faire, j'avais envie d'être comédienne, j'avais pas d'a priori, je m'étais pas dit je ferais ça ou ça. Donc je veux faire ce rôle, je lis avec tout mon cœur et toute ma sincérité, et la prof me dit « Non, non, oh laisse Bérangère, on va te trouver autre chose !» Et elle rit et m'arrête là-dessus. Et je me dis « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc j'ai fait rire sans le vouloir, j'étais déçue, je me suis dit « Mais je suis pas une dramaturge, j'avais un côté « Non, tout ce sera pas pour toi !» Et au final, dans la pièce, je me suis retrouvée avec le rôle de la grand-mère folle qui parle à un mouton. Donc, toute seule. Et donc, les photos, mon père a les photos. Donc, il n'y a que des jeunes filles avec des petites robes, voilà, des petites chemises de
charmante,
nuit.
Charmante, évanescente.
Et moi,
tout.
Une perruque grise, un vieux mouton. Et moi qui parle toute seule. Et donc, j'ai souvenir.
Mais en fait, le potentiel comique existait. Il était déjà là.
Mais
et c'est
là,
ça
mais...
qui rayonnait.
Oui, mais c'était pas voulu. Donc, c'est difficile après.
Vous n'en aviez pas encore pris conscience.
Non. Et je voulais jamais faire rire, moi. C'était malgré moi. Et donc après, je me suis mise dans la comique. Je me suis dit bon bah moi, je sais pas. L'autre, vu que j'ai échoué, je sais pas faire. Donc je me suis toujours dit bah en fait, je suis une drôle moi. Et en fait, c'était plus dur pour moi. Il y a rien de pire que de vouloir être drôle. Et ça, enfin moi, ça m'épuisait en fait. Donc avec ce spectacle, je me suis dit bon, je serai drôle. Ça c'est ok. Je sais raconter une histoire de manière marrante. Mais qu'est-ce que je veux dire profondément? Et donc j'explore et ça me fait très peur parce que bah, montrer ma facette un peu vulnérable, de dire bon bah là ce que je dis je le pense vraiment et je fais pas des ronds de jambes pour le
finalement,
dire.
Finalement c'est nouveau pour vous.
C'est nouveau, mais c'est, en tout cas dans ce que je ressens dans l'accueil du public aujourd'hui, bah, c'est ce que je suis en fait. Est-ce que j'étais déjà à cette époque-là, mais je me suis vexée en fait. Cette prof, elle m'a un peu vexée. Et donc après j'étais la rigolote et puis on se met dans un personnage en fait. Et je sais plus à qui j'avais dit une fois, j'avais dit, mais tu sais, je suis pas Isabelle Adjani, moi je ferai jamais pleurer les gens. Et pourtant, bah, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Et on me dit, oh, qu'est-ce que t'es touchante. Et c'est.
Au théâtre de la Gaîté Montparnasse,
voilà,
à Paris.
Donc, vous voyez, les traumatismes d'enfants, ça reste longtemps. Hein, donc, je répare ça aujourd'hui. Mais j'adore faire rire. Hein. Enfin, je dis ça, on dirait que. Mais. En fait,
non,
c'est
non,
l'alliance
on a bien
deux.
Compris que vous n'allez pas abandonner le rire pour
jamais.
Une carrière de tragédienne.
Non, non, non.
Ça, c'est entendu.
Ça, c'est sûr.
On retrouve immédiatement Bérangère Krief.
Cet après-midi, Isabelle Morizet s'entretient avec la comédienne Bérangère Krief. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, c'est jusqu'à 16h.
Son nouveau spectacle a pour titre « Amour ». Elle le joue à la Gaîté Montparnasse à Paris. C'est Bérangère Krief, bien évidemment, mon invitée cet après-midi. Alors, Bérangère, on continue de dérouler le fil, d'agiter un petit peu comme ça les souvenirs. C'est en 2005 que la Lyonnaise que vous êtes a décidé de tenter sa chance à Paris en s'inscrivant à l'Académie d'Oscar Sisto, ancien prof de la Starac, puis au cours et à l'école du One Man Show. D'ailleurs, j'ignorais qu'il existe une école du One Man Show, voilà. Mais avant de creuser tout ça, j'aimerais qu'on évoque votre première vraie journée à Paris qui s'est déroulée comme une sorte de pèlerinage dans la capitale sur tous les lieux, paraît-il, de tournage du fabuleux destin d'Amélie Poulain parce qu'on était peu de temps après le triomphe du film. En fait, ce jour où vous êtes baladée dans Paris, vous habitiez un rêve, c'est ça?
Oui.
Vous avez fait un pèlerinage ce jour-là.
Bah, j'étais d'ailleurs avec Nicolas Vital, le fameux. Et c'est vrai que notre rêve, c'était de venir à Paris. Et on avait fait la liste de tout ce qu'on voulait faire. Et il y avait tous les endroits d'Amélie Poulain, un film que j'ai adoré. L'épicerie, le café. Et on trouvait ça merveilleux, quoi. Paris, c'était un rêve.
Il paraît que vous étiez par hasard tombée sur Sophie Marceau et Charles Berling. Comme un clin d'œil du destin, c'est vrai ça ou pas?
Bah, pour tout vous dire, on avait fait la liste. Et on avait donc allé voir le café d'Amélie Poulain. Et on avait marqué « voir des stars ». Et en fait, on est arrivé.
Comment vous êtes débrouillé pour ça?
Mais non, c'était drôle parce qu'on avait fait notre petite liste de ce qu'on voulait faire. Et on est arrivé et on marchait de la gare avec nos valises. Et on est arrivé, on était rue Saint-Denis. Et on fait oh, « un tournage oh !» Et il y avait Charles Berling et Sophie Marceau. On était « oh là là, mais on a déjà coché une case !» C'est incroyable, ce voyage a duré 3 jours et c'était incroyable.
Vous étiez déjà dans des coulisses. Mmh. Bon, alors on revient à votre formation, Bérangère Krief. Vous n'avez pas fait le cours Florent, mais l'Académie d'Oscar Sisto, le cours et l'école du One Man Show. Vous recommandez à tous ceux qui veulent faire du seul en scène ce genre d'enseignement. Faire rire, en fait, c'est un métier. Ça s'apprend.
Mais parce que je suis une bonne élève. Je ne vais pas dire qu'il faut que tout le monde passe par l'école, mais moi, je suis une bonne élève, donc j'aime apprendre ma leçon. Et après, je suis plus tranquille parce que j'ai compris, j'ai vu, j'ai observé. Donc l'école, moi, c'était génial pour moi.
Dans cet enseignement, qu'est-ce qu'on a mis, justement, à l'école du One Man Show, concrètement, qu'est-ce qu'on a mis en lumière que vous ne soupçonniez peut-être pas?
Mais je ne savais pas si ça me plaisait d'être seule sur scène. Mais parce que j'avais
simplement
très peur.
Simplement ça.
Bah ouais, j'avais hyper peur. Puis moi, j'écrivais pas à l'époque. J'avais pas incarné plein de trucs. Puis quand on regarde le DVD de Florence Foresti ou de Elise et Moon, je me dis, bon, alors, ils sont là avec leur micro dans une très grande salle. Mais comment je fais pour aller... c'est quoi le parcours? Et quand on va dans un petit café-théâtre, comme c'était le café-théâtre Le Bout à Pigalle, il y avait l'école, mais le soir, c'était un café-théâtre. Et d'un coup, je suis allée voir et je vois des gens pas connus qui font des sketchs très drôles dans une toute petite salle. Je me dis, ah, bah, c'est la case départ, en fait. Donc, je vais faire ça, peut-être. Mais après, je sais pas pourquoi, mais c'était ma plus grande peur, mais je pense mon plus grand désir de faire du one-man show. Et pour tout vous dire, je me suis inscrite dans l'école. J'ai fait des cours. Et pendant un an et demi, j'ai tourné autour de la scène. C'est-à-dire, j'ai fait le spectacle pour
vous
les enfants.
Vous étiez caissière, paraît-il.
J'ai fait la caisse, j'ai fait les réservations, j'ai fait l'équipe d'animation de la scène ouverte. Donc, j'ai présenté les humoristes. Donc,
incroyable.
J'étais vraiment...
Vous preniez votre élan.
Voilà, la lumière, les trucs, j'ai tout fait. Les auditions, j'ai vraiment balayé tout ce qu'il y avait autour de ça. Donc, une fois que j'avais bien tourné autour, je dis à Alexandre de Limoges, le directeur du théâtre, je dis, écoute Alex, voilà, je voudrais jouer mon spectacle, donne-moi une date. Alors, comme il me connaissait bien, il m'a fait confiance.
Donc, parallèlement à tout ça, vous aviez écrit, seul?
Non, j'avais rien. J'avais deux idées dans un carnet et je dis, bon, donne-moi une date dans assez longtemps que j'ai le temps de le faire. Donc, on est en janvier 2009. Et il me donne une date, le 24 juin 2009. Et j'ai 6 mois pour écrire mon truc.
Pour écrire votre truc qui sera baptisé Ma mère, mon chat et Dr House.
Ouais. Et en fait, bah, je commence un peu à aller demander aux gens que je connais, qui font du one man. Alors je leur dis, mais toi, t'as fait comment on écrit un sketch? Et puis petit à petit, en fait, chacun me donne un texte. Et je me retrouve avec Johan... en résidence avec 15 textes et on est là, bon bah on va prendre ça. Moi j'avais 2-3 textes que j'ai mélangés avec plein d'autres copains. C'était vraiment le
mosaïque
du cœur. En plus il y avait beaucoup de cœur là-dedans. Et j'ai monté ça. Alors j'étais dans juste déjà être seule sur scène pendant une heure. Oh, ça a été, mais j'ai eu tellement peur. J'avais l'impression de sauter en parachute et de pas savoir si j'avais un parachute. Et c'est marrant dans la vie comme
quoi. Il y avait
quoi,
combien de personnes dans la salle de 50?
50, avec mes parents. Voilà. Plus une place,
les parents.
Mais des amis, des gens qui venaient me voir, des gens que je connaissais pas. Mais c'est fou, je trouve, dans la vie, d'avoir aussi peur de faire quelque chose qu'on a tellement envie de faire. Enfin, c'est souvent derrière la peur se cache un immense désir, je trouve que...
Bien sûr.
Voilà. Et depuis que j'ai commencé Le Seul en scène, bah, tout s'est enchaîné. Tout s'est bien goupillé. Et tout est arrivé comme ça, voilà. Sans que ce soit... Enfin,
alignement d'étoiles. Et bah, c'est ce qu'on va continuer d'évoquer dans un instant en compagnie de Bérangère Krief.
Jusqu'à 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Sur Europe 1, Isabelle Morizet retrace le parcours de Bérangère Krief.
À partir du jeudi jusqu'au dimanche, le théâtre de la Gaîté Montparnasse à Paris est à elle, Bérangère Krief, pour son tout nouveau spectacle baptisé Amour, absolument irrésistible. Alors voilà, on se promène ensemble cet après-midi. Bérangère Krief, dans le domaine artistique, bah, il n'y a pas de mise en abîme plus grande que l'expérience du seul en scène. Pourquoi ce choix quand même radical et pas celui, par exemple, d'actrice de comédie? Parce que je sais que vous connaissez Chantal Lobby, elle a fait rire des millions de Français sans jamais faire de one-woman show. Le rire qu'on provoque seul en scène, c'est une sorte de Graal, c'est le rire ultime.
Bah, je ne le recherchais pas comme ça, c'est plus... je dirais que pour moi, c'est une vocation. Je savais pas pendant longtemps pourquoi je voulais monter sur scène toute seule, pour parler aux gens. Et puis, avec ce spectacle, encore une fois, post-thérapie, hein, j'ai pu comprendre que le fait de pouvoir aider à travers un spectacle, bah, c'est important pour moi.
Mais alors, en même temps, je voudrais savoir si il n'y a pas davantage de peur de toutes sortes à affronter dans le seul en seul quand on est une fille. Quand même.
Davantage, je ne sais pas. Je dirais qu'on est confronté par contre à des choses, c'est-à-dire qu'on va nous dire votre spectacle est féminin. Bon, bah oui, je suis une femme, donc à partir de ce moment-là, il va être beaucoup plus féminin que celui d'un garçon. Traverser l'injonction de la femme qui rit timidement aux blagues des hommes, qui doit être discrète. Donc, ça, c'est vrai que d'un coup. Ça expose. On demande toujours à mon amoureux, c'est pas trop difficile d'être à côté d'une femme qui fait rire. Bah, lui, il dit non, il est très content.
Il a de l'humour.
Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que les codes se transforment. Mais je pense qu'aujourd'hui, Et d'ailleurs, on parlait de Blanche. Elle est très inspirante, Blanche, parce que...
Elle est très transgressive.
Blanche Gardin. Mais au-delà de son propos, j'ai remarqué que la forme, elle utilise vraiment son féminin, son masculin dans ce spectacle, parce que elle nous parle, elle hurle pas, elle est dans quelque chose peut-être de, qu'on considère pas d'une femme, mais en tout cas de féminin. Et ça m'a inspirée de me dire, en fait, moi j'avais, dans mon premier spectacle, j'y allais, hein, j'étais là, ouais, machin. Alors j'avais mis comme une robe et un petit nœud dans les cheveux qui conservait ma partie féminine, mais j'avais le plaisir de dire des gros mots comme les garçons. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de faire ça. Et que, en fait, en parlant, voilà, dans l'équilibre masculin-féminin qui est le mien, eh ben, ça passait tout autant.
Voilà. Mais alors, je voudrais savoir, Bérangère Krief, où placez-vous les limites dans l'écriture de vos spectacles? Devant quoi, par exemple, pouvez-vous vous dire « Ah, faut peut-être que je freine ». Non, il n'y a rien. Devant quoi
faut freiner ? Là, pour ce spectacle, je voulais raconter une histoire personnelle. Alors, il y a trouvé le juste milieu entre « je raconte trop » et « je raconte pas assez ». C'est-à-dire quelqu'un qui raconte, mais qui se cache encore. C'est un peu, on se dit « bon, bah oui, dis-nous vraiment les choses ». Mais quelqu'un qui s'épanche trop, c'est pas bien non plus. Donc ça, j'ai beaucoup travaillé sur cet équilibre-là. Moi, c'était vraiment ma peur, c'était de dire, bon, ok, je vais parler de tout ça, mais faut pas que ce soit malaisant, faut pas que ce soit trop. Et je crois avoir trouvé ce juste milieu, et ça me fait beaucoup de bien.
Alors, Bérangère Krief, bien évidemment, rien n'est possible sans talent, mais sincèrement, dans ce métier, est-ce que la chance fait partie du package ? Il y a ça aussi.
Mon grand-père, Émile Krief, m'a dit une chose quand j'ai commencé. Quand je suis partie à Paris, je revenais les week-ends et puis je lui racontais, voilà. Et j'étais dans mon école de théâtre et puis la directrice me dit « Est-ce que tu cherches du travail ?» Alors, il y avait un poste d'ouvreuse dans un théâtre. Alors, on m'avait dit « C'est très difficile de rentrer dans les théâtres. » Donc, j'ai passé l'entretien, j'ai eu un boulot. Après, on me dit « Ah, on m'a parlé de toi pour une pièce. » Et je dis à mon grand-père, je dis oh, « Tu te rends compte, Pépé, j'ai de la chance. Les gens, ils veulent bien travailler avec moi. » Et il m'a dit, cette phrase qui m'a changé ma vie, il m'a dit « Tu sais, c'est pas de la chance. Parce que si t'étais toute pourrie, je veux dire que personne ne voudrait travailler avec toi. C'est grâce à ce que tu proposes et la confiance que tu donnes qu'on a envie de travailler avec toi. » Et effectivement, je me suis dit, après, je me suis dit, bah oui, j'ai de la chance, mais j'ai travaillé, en fait. Donc, la chance que j'ai eue, je dirais que c'est d'avoir un grand-père comme Émile Krief et de tomber dans cette famille-là. Ça, c'est vrai que j'ai eu de la chance. Mais la chance pour moi, et c'est plus intéressant, je trouve, de se dire qu'on la crée.
Bien sûr.
En fait, que c'est possible. Parce que on est là à se dire, ah, c'est un métier difficile, beaucoup d'appelés, peu d'élus.
C'est ça.
Bon, bah, je serais pas partie à Paris, hein, en fait.
Elle serait toujours lyonnaise.
Dire, bon, ben, non, mais c'est trop difficile.
Mais alors, heureusement pour nous, justement, elle a quitté Lyon pour Paris. Enfin, quitté Lyon, j'imagine que vous y retournez très souvent. Oui. Mais, Bérangère Krief, qu'est-ce que vous avez appris, par exemple, on continue, de dérouler le fil, en étant l'héroïne féminine de la série Bref sur Canal? Parce que vous avez aussi fait de la télé, vraiment qui a très, très bien marché. Donc Bref sur Canal qui, en fait, en 2011 a initié, j'ai presque envie de dire, une autre pratique du langage, du jeu, du débit.
Ouais, ça a été un vrai tournant ça dans ma vie. Je suis à l'époque, donc on traînait avec toute l'équipe de Bref, avant que ce soit Bref, hein, on était tous dans un café-théâtre qui était un restaurant pizzeria, on jouait pour des quatre fromages en gros, et donc on jouait nos sketchs, on se connaissait par nos métiers et nos textes. Et après, on faisait un karaoké avec un Rémi au piano, un classeur avec des intercalaires, et on chantait. Donc c'était une époque formidable où je pouvais me coucher très tard et me lever très tôt, et c'était ok. Et donc je rencontre Kian Kojandi, je rencontre Bruno Muschio, les créateurs de Bref. On sympathise, voilà, on traîne ensemble et c'est ok. Et un jour, Kian m'appelle pour me dire, voilà, j'ai un projet, on tourne au mois d'août et tout. Et moi, à l'époque, j'avais comme posé mes vacances, j'avais beaucoup travaillé. Donc, je m'étais dit, bon, si on dit pas qu'on part en vacances, j'ai l'impression que dans ce métier, on part jamais.
Voilà.
Donc, j'avais posé mes vacances. Je lui ai dit, bah oui, mais tu sais, moi, je pars. Je sais pas ce que c'est ton truc, mais parce qu'on a des projets, j'en avais fait beaucoup, des pilotes, etc. Donc, il me dit, ah bon, bah, je te rappelle. Il me rappelle, il me dit, bon, bah, c'est début. Je dis, bah oui, mais moi, je vais partir. On raccroche. Là, le producteur Harry Torgeman m'appelle en me disant, écoute, Bérangère, je crois vraiment, je vais t'envoyer des textes. C'est pour Canal+, je pense que ça va être bien. Les garçons ont vraiment écrit pour toi. Donc, je me dis, ah, ok. Et là, je me dis, ah oui, d'accord. Et là, c'est le raz-de-marée. C'est-à-dire que moi, j'ai tourné au mois d'août avec mes copains. Je suis pas partie en vacances. Et c'est le mois d'août, il y a personne, on fait notre truc. Et la rentrée arrive, et là, boum, explosion. On est reconnu dans la rue, tout le monde parle de nous, on est invité partout. Enfin, c'est le spectacle
les
complet.
Les jeunes se mettent à parler comédiens de la série.
Il y a des parodies, on en fait dans tous les mariages. Je crois qu'encore aujourd'hui, mais ils font des parodies.
Alors
bref.
Ça a été diffusé en 2011-2012.
Ouais, ça a duré 1 an. Je dis toujours, ça m'a pris 15 jours de ma vie.
15 jours de votre vie, et on vous en parle toujours.
Ouais, mais ça me fait plaisir. Je me dis, bah, c'est un tournant, quoi. J'ai l'impression d'être l'héroïne de Dallas, quoi. Je me dis.
Bon, alors.
À tout jamais.
Écoutez, c'est quand même extraordinaire parce que, bon, on évoquait à l'instant ce curieux paramètre qu'est la chance, et dont vous parlez si bien votre grand-père, Émile. Hein, on dit qu'elle sourit toujours aux audacieux, la chance. Mais alors, par exemple, pour le cinéma, cette fois-ci, et pas pour la télé, est-ce qu'il est vrai, Bérangère Krief, que votre rôle dans le film de François de Sagna, Adopte un veuf, face à André Dusselier, film qui a fait quand même 1,5 million d'entrées en salle, ben ce rôle, vous le devez? En ce qui concerne en tout cas le début de l'aventure, parce qu'après, bien sûr, c'est qu'ils vous ont trouvé formidable en vous rencontrant, qu'ils vous ont prise, mais vous le devez au fait que le scénariste vous a repéré, en fait, a repéré votre frimousse sur les colonnes Maurice grâce à l'affiche du spectacle. En fait, sans votre bouille sur les colonnes Maurice, vous pensez que le réalisateur du film ou le producteur n'aurait jamais songé à vous appeler ?
Ben, c'est vrai que c'est Jérôme Corcos que j'embrasse et que je remercie encore parce que il a été assez intuitif. C'est quelqu'un, Jérôme, c'est un parieur. Il a quelque chose de mon grand-père. Donc ça, c'est quelqu'un d'intuitif. Il a pas besoin de voir 10 bandes démo ou quoi. Et c'est vrai qu'il m'a toujours dit, je t'ai vu sur cette colonne Maurice. Bon, faut dire qu'à l'époque, j'avais une Barbie. Enfin, un Ken, le mari de Barbie, et je regardais dans son slip, ce qui n'était pas anodin comme image dans Paris. Et donc
il a donné un grand coup de frein.
Il m'a vu dans sa bagnole et il a dit, mais il faut que je rencontre cette personne. Et donc on s'est rencontrés et il m'a dit, voilà, il y a ce film auquel j'ai pensé avec André Dusselier, l'histoire d'un veuf qui crée une colocation. Et il me dit, on a pensé à toi. Je me dis, à quel moment ça s'arrête cette blague? Et en fait, non, et on a été au bout et le film s'est monté. Ça a été mon premier projet de cinéma, enfin, c'était une formidable.
Et un vrai succès,
ouais,
populaire.
Ouais, ouais, ouais.
Et alors, avec des articles dithyrambiques. Hein.
Ouais, et puis c'était.
Ah, je parle de vous.
Ah, sur moi, oui, mais oui, c'est vrai que. Mais moi, je me suis éclatée, donc je pense que les gens l'ont senti. Et de jouer avec André Dusselier, bah, qui est quand même la voix off d'Amélie Poulain, je le rappelle. Donc moi, j'étais dans mon rêve.
La boucle est bouclée.
La boucle est bouclée. Donc c'était une super rencontre et André a été adorable, donc. C'était merveilleux, quoi. Je pouvais pas rêver mieux pour commencer, ça, c'est vrai.
On continue de se balader sur le tapis volant de Bérangère Krief cet après-midi. On se retrouve tout de suite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Il est 15h40, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Se poursuit jusqu'à 16h sur Europe 1 avec Isabelle Morizet et son invité.
Il se passe des choses absolument formidables au Théâtre de la Gaîté Montparnasse. Chaque semaine du jeudi au dimanche, grâce à qui ? Grâce à Bérangère Krief, dont le nouveau spectacle a pour titre « Amour ». Voilà, Bérangère est mon invitée. Alors, chère Bérangère Krief, vous n'étiez pas du tout une débutante lorsque vous avez décroché un premier rôle féminin face à André Dusselier dans la comédie réjouissante « Adopte un veuf », je le rappelle, qui a fait 1,5 million d'entrées au cinéma, parce que en fait, par deux fois déjà, vous aviez joué aux côtés de Marie-Lou Berry dans Joséphine et au sujet de, en fait, la manière dont on découpe le temps, justement, quand on est actrice au cinéma, vous dites, et je trouve ça très intéressant parce que le grand public ne le sait pas forcément, vous dites, en fait, on tourne, puis il se passe absolument plus rien pendant un an. Quand le montage est fini, alors on découvre ce qu'on a tourné, puis on fait la promo, le film sort et eh bien, tout est fini. Donc, entre le casting et le moment où tout est fini, sauf si on se revoit pour les Césars, eh bien, il peut s'écouler 3 ans. Il y a des interruptions insensées, quoi. Quand les gens viennent parler en promo d'un film, parfois, ils ne se sont pas vus depuis 1 an et demi.
Ouais, maintenant, ça va assez vite, mais c'est vrai que ça peut être 1 an, ça peut être... C'est au moins 8 mois, quoi, le temps du montage et tout, et c'est très long. Et puis, d'un coup, on se retrouve, on replonge, on voit les images d'il y a un an et demi de ce qu'on a tourné. C'est vrai que c'est particulier. Enfin, moi qui viens du théâtre, qui est dans l'instantané, qui, voilà, je joue, on est là, on a la réaction immédiate de ce qu'on vient de faire. Et le cinéma, mais c'est un autre temps et c'est très long, c'est vrai.
Alors, en plus des questions d'ego, est-ce qu'il est compliqué d'entretenir des amitiés au cinéma ? Par exemple, qui sont vos amis ? Ce sont plutôt des gens qui viennent de l'univers du café-théâtre ou ce sont des gens de cinéma ?
Je pense que c'est plus des gens du café-théâtre et du théâtre, ouais. C'est confusant un tournage parce qu'on va passer beaucoup de temps ensemble et c'est un peu comme une colo. En fait, et je crois que si on a la naïveté de croire qu'après la colo, on va s'écrire des cartes postales et qu'on va tous se revoir et que ce sera comme avant.
Qu'est-ce qu'on se gourre
et on se gaufre. Et souvent dans un tournage, quand ça se termine, je me dis, en fait, c'est ce moment-là, ce temps-là, avec ces gens-là, à cet endroit-là, qui fait ce moment-là. Si on enlève un élément, ce sera différent. Et par exemple, avec Marie-Lou, on s'est rencontrés sur le tournage et ça matchait tout de suite. Mais ça n'a pas été... C'était tout doucement. Moi, je trouve que l'amitié... D'ailleurs, on devrait s'inspirer de l'amitié pour l'amour. C'est que souvent, on ne sait jamais quand on rencontre quelqu'un que ça va être notre ami pendant 10 ans, 15 ans. Donc, je laisse faire les choses. Je ne me dis pas, tiens, il y a des gens que je vais revoir d'un coup. Puis on se retrouve, on va partager un moment... La vie fait bien les choses, en fait, généralement.
Et puis, on peut se recroiser sur un autre film.
Ouais.
Alors, faire un film qui marche avec André Dussolier, c'est superbe sur un CV. Qu'est-ce que vous avez peut-être glané de sa façon à lui de convaincre la caméra ?
Il est très fort, André. Alors, ce que j'ai aimé, c'est partager avec lui, c'était... J'ai senti l'homme de théâtre. Parce que je crois que quand on sait ce que c'est de jouer au théâtre, c'est-à-dire en live, sans filet... devant les gens, je crois que on a deux choix. Soit on est chacun pour soi, soit on est main dans la main, et c'est sacré. Et j'ai senti que c'était, voilà, on était partenaires et que la confiance régnait, et il l'a très bien instauré. Après, c'est quelqu'un qui bosse énormément, donc il revisitait son texte, il pensait, il se disait, tiens, il allait voir François Desanier en disant, j'ai une proposition, et c'était toujours très judicieux. Je me disais, moi j'apprenais déjà mon texte, j'osais pas trop bouger des choses, oui, donc ça m'a inspirée. Il est troublant de vérité, quoi, c'est-à-dire, il y a une prise où je l'ai appelé André, tellement il est... Son personnage s'appelait Hubert, et d'un coup je dis, mais André, et en fait, c'était André, quoi.
C'est charmant.
Et voilà, il est troublant aussi parce qu'il est capable de nous faire nous émouvoir, et puis la seconde d'après, nous faire hurler de rire. Donc un sens de la comédie et de la dramaturgie qui est incroyable. Non, voilà, ça a été un vrai bonheur. Enfin, c'était une masterclass de
oui,
tout
c'est
le tournage, quoi.
C'était une masterclass.
Ouais.
Alors, Bérangère Krief, sur scène, vous êtes le boss. Au cinéma, vous composez avec un milliard de paramètres. Mais vous l'aimez, la caméra ?
Oui,
Parce qu'on se donne à voir et à entendre très différemment.
Ouais. Elle me fait peur encore, la caméra. Je suis contente d'explorer au théâtre une certaine vulnérabilité dans le texte. Et peut-être que ça me donnera aussi plus de confiance au cinéma.
Alors, un film, en fait, Bérangère Krief, un film n'est fait que d'une suite de prises définitives, alors que sur scène, vous réinventez tous les soirs. Le définitif ne vous angoisse pas ?
Ça reste à jamais.
Le réalisateur, tout à coup, dit « c'est bon, on l'a ».
Ouais.
Ben on l'a pour toujours.
On est là,
on va plus rien changer.
On est sûr de ça. c'est vrai qu'il y a quelque chose d'inscrit dans la postérité, quoi. C'est-à-dire, ça va rester, ça va repasser à la télé, ça va.
Voilà.
Et donc, je pense que inconsciemment, je me l'étais jamais dit comme ça, donc merci beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a cet ancrage d'un coup, on ancre dans la pellicule, cette image qui restera jamais de nous. Et je crois que ça me fait un peu flipper, ouais.
Bon, est-ce que, comme votre amie Marie-Lou Berry, un jour, c'est vous, Bérangère Krief, sur un plateau qui crierait « Action !»
J'espère. Moi, ouais, j'aimerais bien. Je crois qu'aujourd'hui, ça m'amuserait beaucoup de tout gérer. J'ai vu Marie-Lou sur des films et elle est extraordinaire parce que c'est à la fois s'écouter, écouter tout le reste de l'équipe. C'est beaucoup de choses, hein, je pense, un tournage. Mais je me sens plus prête aujourd'hui, même à, je sais pas, raconter mon histoire, j'en sais rien. Mais en tout cas... être maître à bord, ouais, ça me plairait beaucoup.
Vous avez commencé à griffonner un manuscrit pour elle,
j'ai les choses
dans un tiroir grandit au fil des jours. Ok, on a compris. Alors on attend. En tout cas, on va pas attendre longtemps pour retrouver Bérangère Krief, vraiment dans une poignée de secondes. À tout de suite.
Qu'une vie dans la vie. Dernière partie, la conversation entre Isabelle Morizet et son invitée Bérangère Krief touche à sa fin. La comédienne et humoriste est de retour avec un spectacle d'humour baptisé Amour à la Gaîté Montparnasse à Paris avant la tournée.
Bérangère Krief, est-ce que les humoristes sortent avec des filles qui ont de l'humour ?
C'est une bonne question, ça.
Parce que j'ai l'impression que dans le privé, les humoristes, ils n'aiment pas trop que les filles soient sur leur terrain de jeu.
Oui, oui, il y a une petite bisbille entre les humoristes hommes et femmes un peu. Je pense que, mais après, ça dépend des gens. Je peux pas faire de généralité. Mais je pense qu'un mec, un homme drôle, il va aimer une femme qui rit à ce qu'il fait. Après, peut-être qu'il
qui rit à ce qu'il fait. Voilà.
Mais pas qui marche sur ses plates-bandes.
Voilà.
Oui, ça c'est
alors
sûr.
Alors que vous trouvez qu'un mec drôle, c'est terriblement sexy.
Oui. C'est assez marrant parce que je crois que dans une relation amoureuse, en fait, l'autre est un miroir. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, comme je voulais être cette humoriste, cette comédienne, artiste, j'allais vers des hommes qui m'attiraient, j'étais admirative.
Qui vous inspiraient.
Ils m'inspiraient, ils étaient si drôles, si machin. Puis plus je vieillis, plus j'ai confiance un petit peu en moi. J'ai moins besoin d'un faire valoir comme ça. Mais par contre, par exemple, mon amoureux, il est très drôle. Mais il en fait pas son métier. Il est juste drôle. Alors, et ça, j'aime bien.
Par exemple, Bérangère Kayev, je sais que vous avez à un moment été en couple avec un humoriste qui était considéré comme vraiment sans filtre, nos limites, adepte des happenings les plus inattendus. Alors, comment fait-on pour préserver son paysage à soi quand on vit avec quelqu'un justement qui s'amuse à pulvériser toutes les barrières ?
Je reparle de ce miroir parce que j'étais admirative de sa liberté d'artiste, de création. Il écrivait, il se posait pas de questions comme moi en fait. Moi, je n'osais pas m'affirmer et je le voyais faire. Mais lui me disait, t'as pas des trucs à écrire, t'as pas envie de dire des choses. Et je disais, bah non. Et ce dont je parle dans le spectacle, justement, c'est cette injonction sociétale, je dirais, d'entre deux générations. Parce que moi, je suis vraiment la génération entre les deux, quoi. C'est-à-dire que je suis née sans téléphone portable, et puis à un moment, ça a été quand même là. Je suis née, il n'y avait pas Internet, et puis c'est quand même un outil qui m'est familier. Et c'est pareil avec le schéma amoureux. Moi, je suis née avec mes parents, mes grands-parents qui se sont rencontrés, qui se sont mariés, qui ont construit une vie de couple, avec ma maman qui travaille pas, mon papa qui travaille. Donc, j'ai pas baigné dans la femme forte, indépendante, qui s'assume. Donc, quand j'étais en couple, et surtout avec cette personne, je me suis éteinte. Je me suis dit, moi je suis à la maison. Alors je faisais mes choses, mais pas trop. Je voulais pas faire de l'ombre, je voulais pas faire de bruit, je voulais pas. Même si lui me disait, mais écoute, moi je t'ai pas
par
demandé.
Par amour, vous êtes éteinte.
C'est pas par amour, hein, c'est parce que je voulais être une fille bien. Je pense que c'est pas spécialement par amour. Parce que s'il me l'avait demandé, c'est encore autre chose, mais c'est même pas ce qu'il me demandait. Donc moi j'ai souvent eu le défaut, c'est-à-dire de rencontrer un homme qui m'admire parce que j'étais un peu indépendante, entreprenante dans mes choses. Et puis d'un coup, hop, la fille qui faisait ses trucs, elle s'éteint et elle dit, bon, alors, comment ça s'organise chez nous? Comment on fait? Et en fait, ça crée un déséquilibre parce qu'il voyait une facette de moi qu'il aimait bien et puis plus du tout une fois dans la relation. Et ça, c'est intéressant parce que construire une relation aujourd'hui, c'est partir de soi vraiment pas et se détacher de l'éducation et du sentiment de vouloir encore appartenir au clan, à la famille, à pas vouloir faire de vagues. Moi, j'ai une famille, j'ai de la chance, je me suis dit il y a pas longtemps, personne ne divorce. Quasiment personne n'est séparé. Ils sont tous là, c'est des petits binômes trop mignons, il y a beaucoup d'amour. Et je me suis dit, mais moi j'y arrivais pas, j'étais celle qui échouait tout le temps. Je me disais, mais comment je vais faire?
Et mais alors en plus, si dans un couple les deux sont célèbres, et Dieu sait si c'est pas un métier anodin, là franchement vous pensez que c'est gérable?
Je crois que c'est très difficile. Je dis pas que c'est pas possible, mais moi au final, aujourd'hui ce que je traverse, c'est que je suis avec quelqu'un qui est pas du tout connu, qui est pas du tout du métier. Et en fait, on dit toujours cette phrase, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Et puis,
derrière chaque femme qui réussit, il y a peut-être aussi lui veut du bien.
Nous, on a compris, derrière chaque femme qui réussit, il y a personne parce qu'on est indépendante. Et c'est beaucoup plus dur. Moi, je suis contente d'avoir quelqu'un qui me soutient, qui est fier de moi.
Alors, qu'est-ce que vous avez encore à vous prouver, Bérangère Kriev?
J'ai plein de choses encore.
Alors.
Là, j'ai fait pas mal de choses. Là, je dois dire que je me suis assez dépassée sur ce projet-là. La prochaine étape qui me fait très peur, je dirais que c'est la maternité. Voilà, ça c'est le gros...
La grande aventure d'une vie.
Ça c'est la grande aventure d'une vie. Je pense que comme j'ai mis longtemps à m'écouter vraiment, à accepter d'être qui j'étais, j'ai peur que d'un coup, cette personne que je ne connais pas encore arrive par mon ventre et puis que je m'écoute plus du tout parce que je sais que je serai attentive et aimante et je sens que ça va me bouleverser. Je crois que c'est autant que le One Man Show en 2009. Je pense que j'ai autant de peur que de désir d'avoir un enfant. Donc ça, c'est ma prochaine aventure. C'est pas encore programmé, mais en tout cas...
Mais écoutez, c'est le plus beau projet qu'on puisse avoir. Alors, juste avant de nous quitter, parce que ça passe vite, oui. Hélas, avec vous, Bérangère Krief, il y a un film au casting dément qui va bientôt sortir. Thierry Lhermitte, Gérard Darmon, Ramzi Bedia, Pierre Richard et vous, bien sûr. Vous pouvez nous donner quelques news et peut-être quelques scoops sur ce long métrage très très attendu de Kéron.
Alors, Brutus versus César, c'est mon premier film en costume, donc on a tourné cet été au Maroc. Je crois qu'il n'y a rien de plus drôle que d'être en costume et de parler comme aujourd'hui. Ça, c'est vraiment le décalage. Il y a énormément de monde, il y a un super casting pour ce film. Moi, je joue la première esclave femme à être libérée. Je suis un peu, comment dire, il y a un cynisme dans ce personnage qui prend un peu tout le monde pour des cons, mais qui se dit, mais où je suis beaucoup trop intelligente pour être là. Il y a un vrai plaisir à jouer ce personnage assez libre, qui en profite du coup après, qui va un peu profiter de son intelligence pour, c'est quelque chose que je ferais jamais dans la vraie vie, et j'adore souvent jouer des personnages libres, un peu malhonnêtes. Je crois que ça me plaît beaucoup parce que je le fais jamais dans ma vie et que je suis toujours à vouloir tout bien faire, etc. Là, elle s'offre une liberté, donc je raconte pas tout le film parce qu'elle a l'évolution du personnage est très très drôle.
Le film sort quand?
Le 1er avril.
Le 1er avril.
Voilà. C'est pas une blague.
C'est pas une blague. Et vous nous rappelez le titre?
Brutus versus César.
Bon, mais avant ça, il faut absolument courir à la Gaîté Montparnasse à Paris, voir le spectacle irrésistible d'une fille irrésistible, Bérangère Krief, le spectacle a pour titre Amour. Vous le jouez du jeudi au dimanche. Et puis vous allez partir, bien sûr, en tournée dans toute la France, la Suisse, la Belgique, à partir de septembre.
Voilà, exactement.
Attention. Et on attend le film. Vous serez derrière la caméra.
Ah, bah oui, oui. Bah, je vais prendre un peu de temps pour faire le spectacle.
Je reçois la réalisatrice, ouais, qui sera aussi peut-être maman. Bah, parce que ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que le dernier film, par exemple, que vous avez tourné avec Marie-Lou Berry, elle était derrière la caméra et elle était enceinte, oui, de 7 mois.
C'est vrai.
Donc c'est possible.
Donc, ah oui, oui, elle a été très inspirante justement pour ce côté-là où j'ai l'impression que tout va s'arrêter, on va fermer les rideaux, allez, plus personne, on peut plus rien faire. Et effectivement, Marie-Lou, ça a été, je peux pas vous dire la force, et en même temps, elle était épanouie et elle a géré son équipe. L'image que j'ai de Marie-Lou à ce moment-là, c'est vraiment derrière la caméra, assise sur un gros ballon, vous voyez les gros ballons.
Oui, oui, oui. Et qu'on utilise pour faire de la gym.
Action moteur. Et elle était extraordinaire. Donc on peut faire plein de choses enceinte apparemment, donc je vous en parlerai à ce moment-là.
Mais volontiers. Écoutez, c'était épatant de passer cette heure en votre compagnie.
Merci.
Je vous dis à très vite. Merci infiniment,
Bérangère. Merci d'avoir pris le temps, c'était très sympa.
À bientôt.
C'était Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, une conversation que vous pouvez d'ailleurs réécouter en replay et en podcast sur europe1.fr. Isabelle Morizet revient bien sûr demain dès 15h avec le réalisateur Michel Hazanavicius pour la sortie le 12 février prochain d'une comédie entre conte et réalité, Le Prince oublié, avec Omar Sy, Bérénice Bejo et François Damiens. À suivre, L'équipe est sauvage de Mathieu Noël. Bon week-end avec nous.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1.